Bonsoir à tous, merci de vous être déplacés par cette chaleur. Et un 14 juillet, c'est vrai qu'à la SAFSA, on n'a pas tellement l'habitude de faire des conférences le 14 juillet. Et ça fait plaisir de voir autant de courageux. Je présente en deux lignes Monsieur Bonnet. Donc Monsieur Bonnet est né à Albi. Il a passé la moitié de sa vie active comme prêtre ouvrier dans une entreprise du bâtiment au Japon. Ensuite, a été coordinateur au BIT, au Bureau international du travail, pour l'Afrique, chargé des programmes relatifs au travail des enfants. Et retraité à Cordes, il se consacre à l'étude en particulier de Raymond VII. Voilà. À vous, Monsieur Bonnet.
Merci. Bonjour. Je vous remercie de venir à cette réunion. Je remercie évidemment, je suis très content que Claude et l'équipe, enfin l'équipe, l'association des amis du Vieil Antonin m'aient invité parce que je suis vraiment très content. C'est pas une formule du tout. Vous le verrez dans le courant, vous le sentirez dans le courant de ce qui va suivre. Je suis vraiment très content de pouvoir parler de Raymond VII, à, non pas comme d'habitude à Cordes ou n'importe où à droite à gauche, mais à Saint-Antonin. Saint-Antonin, pour moi, c'est comme un aimant, si vous voulez, à cause de cette chose unique qu'il y a, unique dans le monde, pour quelqu'un qui s'intéresse à Raymond VII, c'est la maison Muratée, qu'on appelle traditionnellement la maison Muratée, je continue avec le même nom avant qu'on le change, et donc la fresque qui se trouve au premier étage de la maison Muratée et qui représente, entre autres, mais de façon bien centrale, Raymond VII. Et c'est le seul endroit en France où on a une peinture de Raymond VII et pratiquement faite, pas de son vivant, mais presque, puisqu'elle a été faite dans les 7 ou 8 ans qui ont suivi sa mort. Donc on peut dire que c'est grosso modo de son vivant. Et donc quand je suis ici, quand je vais devant la maison Muratée, que je pose ma main sur le mur, même si ce n'est pas le mur d'origine, j'ai l'impression de me sentir plus à l'aise avec Raymond VII. En fait, je ne suis pas du tout, surtout, alors ne me croyez pas historien, ni de formation, ni rien, je suis simplement un amoureux de Raymond VII. En vieillissant, on devient gaga, il y a pire comme détérioration. Et je peux dire que quand je me suis retrouvé à la retraite, il y a maintenant, ça commence à faire longtemps, 25 ans, et que je n'avais pas grand-chose à faire, je me suis branché sur Raymond VII, habitant à Cordes, ça allait de soi, et je suis devenu extrêmement intime avec lui. Je pense que ces 10 dernières années, je n'ai pas passé une seule journée sans discuter avec Raymond VII, sans étudier, sans lire, enfin quelque chose, c'est constant. Et dès que Claude m'a dit, bon, est-ce que tu peux venir parler faire une conférence de Raymond VII, etc., j'ai demandé tout de suite à Raymond VII, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, surtout fais attention, parle, n'oublie pas les habitants de cette époque-là, les habitants de Saint-Antonin-Nobleval. Et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui essayer qu'on ait une soirée, en fait, qu'on ait un moment de plaisir à partager les sentiments que les gens de Saint-Antonin avaient il y a 800 ans quand ils pensaient à Raymond VII. Je pense que du fait qu'il y a cette peinture ici, qu'elle a été faite, qu'elle a été décidée au moins par un habitant de la ville et qui ne devait pas être unique. Donc il a voulu exprimer quelque chose et donc c'est partagé par une partie des citoyens. Tout le monde n'est pas d'accord peut-être, mais une partie des citoyens. Et quand je pense à cette époque-là, quand je vois cette peinture, enfin je vois dans la mesure où on peut la voir avec des clichés, etc., je sens, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de fierté d'avoir un comte de Toulouse de cet acabit, de cette taille, pour ces marchands de Saint-Antonin, pour la population, et même de l'admiration. Je me trompe peut-être. N'hésitez pas, au fait, à me couper la parole si vous en avez envie. Je ne suis pas du tout un conférencier qui dit son texte et que vous devez ingurgiter de force parce que je sais et vous ne savez pas. Pas du tout. Mais je pense que tous ensemble, on peut, avec des réactions, etc., aller vers une causerie qui fera avancer les choses. Donc, ce sentiment, j'ai essayé de le découvrir, de l'approfondir, ce sentiment des gens... de la population de Saint-Antonin à cette époque-là, donc il y a 800 ans. Et je pense que ça serait intéressant qu'on le partage, vu que moi, je le partage personnellement. Pour cela, je ne vais pas vous faire une étude, parce que je ne suis pas de taille à faire cela, mais je suis comme un randonneur, vous savez, qui va sur un sentier, et puis selon qu'il fait beau, selon qu'on est fatigué ou pas, on se promène, on rentre avec un cèpe ici, une poignée de myrtille, un cliché quelconque, et on le partage avec les amis qui sont à la maison. Voilà. Mais moi, je suis un peu comme ça. J'ai fait une randonnée sur les chemins du XIIIe siècle autour de Saint-Antonin, et je vous dis deux ou trois choses qui m'ont marqué. Il y en a une première que je trouve extrêmement intéressante, que vous... Ceux qui s'intéressent à l'histoire de Saint-Antonin, vous le connaissez, je m'en excuse à l'avance, mais c'est un document qui est le faire-part du décès d'un père abbé au Liban, le père abbé de l'abbaye de Ripoll. On a la chance d'avoir ce document, enfin la chance, en Espagne bien sûr. Donc Oliba était un homme exceptionnel, a été un homme exceptionnel qui a vraiment profondément marqué à la fois le sud des Pyrénées et le versant nord des Pyrénées dans ce grand mouvement qu'il y avait à cette époque-là où l'Église essayait de se rénover, de se purifier un peu. C'était pas joué d'avance. Elle avait lancé la paix de Dieu. Pendant 100 ans, pendant tout le 11e siècle, ça avait foiré complètement. Et Oliba, donc le père abbé de Ripoll, a eu une idée par rapport à ce problème de la restauration, en quelque sorte, de la société et de l'Église, c'est de dire, tout le monde est d'accord pour qu'on ne travaille pas le dimanche, comme le problème essentiel, il est chez les militaires, je veux dire, les chevaliers, les seigneurs qui se battent sans arrêt, on va dire, puisque leur travail c'est de se battre, mais vous vous arrêtez de travailler le dimanche. Et donc vous ne vous battez pas, vous vous engagez à ne pas vous battre du samedi soir au lundi matin. Et il a créé comme ça tout un courant qui a beaucoup, beaucoup influencé l'ensemble de l'Occident, l'ensemble de l'Europe à cette époque-là, dans le courant du XIIe siècle. Et donc, Saint-Antonin Nobleval aussi. Et il a créé comme ça une sorte d'association, le mot aujourd'hui on dit association, mais peu importe pour cette époque-là, et il a créé une sorte d'association, un réseau, qui s'est étendu beaucoup, pour promouvoir cette rénovation de l'Église et de la société. Et donc, quand il est mort, il avait une audience, il était connu de partout, et les braves moines de Ripoll, je ne sais pas si vous êtes allé visiter cette abbaye qui est sensationnelle, elle se trouve entre Puigcerdà et Barcelone. Vous voyez, c'est dans cette région-là. C'est dans le coin, voilà, avec Montserrat et tout ça. Donc, les moines se sont dit, comment on va faire pour annoncer ça à tout le réseau? Alors, ils ont décidé de faire, d'écrire un faire-part. Ils ont pris un parchemin, pas un papier, puisque le papier n'existait pas encore. Ils ont pris une peau de mouton, ils l'ont transformé en manuscrit. Ils ont écrit un petit papier, un texte sur la peau. Et ils l'ont fait suivre, ce texte, pour dire que le père abbé était mort et que c'était le meilleur des pères abbés, évidemment, on ne dit pas du mal des morts. Hein. Et ils ont fait suivre ce texte-là de la liste des destinataires de se faire part. Parce qu'ils pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens d'envoyer une peau de mouton à tous les gens qu'il y avait, Internet n'existait pas, etc. Et donc, ils ont mis cette liste. C'est une liste qui a 93 destinataires. C'est quand même un paquet, beaucoup d'abbayes, mais aussi des évêchés, des seigneuries, enfin, etc. 93, une liste. Beaucoup sur le versant sud des Pyrénées, mais la majorité quand même, beaucoup plus sur le versant nord des Pyrénées. Et ils ont pris deux braves moines et ils lui ont dit, eh bon, vous partez avec un mulet et vous allez faire le tour des 93 destinataires. Quand aujourd'hui on s'amuse à prendre la liste qu'on la met sur une carte Michelin, en allant au plus court, ça fait 1800 kilomètres. Le tour des destinataires. Vous voyez, ça leur a pris quelques mois. C'est intéressant parce que, donc, on a comme ça des points forts d'un réseau autour d'Oliba. Pourquoi je vous dis ça? Ben, vous vous doutez, c'est pour savoir si Saint-Antonin Noblevin est dans la liste ou pas. Or, dans cette liste-là, la plupart des adresses commencent par le nom de du couvent. L'abbaye de Saint-Cernin à Toulouse, l'abbaye Saint-Victor à Marseille, enfin, etc., etc. Et il n'y a pas l'abbaye Saint-Antonin, elle n'y est pas dans la liste. Alors, en fouillant, en reportant ça sur la carte, etc., on s'aperçoit qu'à la place, il y a un nom qui est... attendez, que je, avec la mémoire que j'ai en vieillissant, vous m'excusez. Valnoboulensi. Valnoboulensi, le nom latin pour dire noble val. Et dans noble val, il y avait après aller à l'abbaye de Saint-Antonin. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous met la puce à l'oreille pour nous dire, mais attention, ce qui est important, c'est noble val, c'est pas Saint-Antonin. Ce qui est important, c'est la ville, c'est pas l'abbaye. Ça, c'est le faire part. Vous voyez? On est là devant un processus à vérifier. Mais ça, c'est le travail des historiens. On est là devant un processus où le petit hameau qui s'était greffé sur l'abbaye a phagocyté, en quelque sorte, l'abbaye en se développant et en devenant une grande ville. Oui. Et quand on regarde alors... en dehors de ce document, un peu qu'est-ce que c'était que cette ville de Nobleval, on s'aperçoit que c'est la deuxième plus grande ville du Rouergue. La première étant Rodez, et c'est la deuxième. Rodez, à cette époque-là, tournait autour des 10 000 habitants. Et Saint-Antonin-Nobleval tournait. On est à l'époque de la fin du XIIe siècle, je rappelle, au moment, grosso modo, de la naissance de Raymond VII. Et donc, à cette époque-là, on est avec quelque chose autour de 8000 habitants. Vous voyez, aujourd'hui, autant que je sache, il doit y avoir, grosso modo, autour de 2000. Hein, c'est-à-dire quatre fois la population d'aujourd'hui, en Nobleval. C'est quand même une ville importante. Quand, en plus... on sait qu'elle est enfermée dans des murailles et donc elle n'est pas étalée comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, ça nous dit une chose qui est extrêmement importante, que je trouve personnellement très importante, c'est que ce qui se passe à Saint-Antonin-Nobleval à cette époque-là, c'est le développement selon le dynamisme d'urbanisation et non pas selon le dynamisme de développement de l'Église. C'est complètement différent. Quand on pense développement d'urbanisme, on va penser politique, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a des seigneurs qui sont connus, qui ont été assez forts pour développer un consulat, un gros consulat. À la fin du XIIe siècle, il y a 12 consuls sur Saint-Antonin. C'est énorme, énorme, exceptionnel. On a un développement, évidemment, de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les notaires, les gendarmes, les services de la voirie, etc., etc. On a là-dessus le développement, bien sûr, du commerce, avec le commerce pour les gens qui viennent ici. Imaginez le marché hebdomadaire de Saint-Antonin, multiplié par 4, hein, par rapport à aujourd'hui. Et ça fait du bois, ça fait beaucoup d'artisans, beaucoup de vendeurs. Et en plus, on sort, on a les documents, on a beaucoup de documents quand on fouille, on s'amuse. Moi, je vadrouille beaucoup à droite, à gauche, donc je m'amuse à chercher des documents un peu partout. Bien, on trouve des drapiers, des marchands de Saint-Antonin, qui ont des contrats avec des marchands de Bruges, avec des marchands de Florence, avec des marchands de Tolède, avec les musulmans d'El Andalus. Vous voyez la palette qu'il y a, et tout ça, ça demande des comptes, ça demande des traducteurs, ça demande tout un réseau, c'est extrêmement important. Et il y a un dynamisme là-dedans qui pousse à aller de l'avant. Un dynamisme également culturel. Dans une ville comme ça, une ville aussi importante que Saint-Antonin à cette époque-là, eh bien, il y a automatiquement des gens qui réfléchissent, des intellectuels, des gens qui lisent, qui écrivent un peu, et puis il y a surtout les troubadours et tout le monde culturel autour des troubadours. Et là, ce n'est pas à vous que je vais enseigner ça, mais on a en particulier un troubadour qui était en lien avec tous les grands troubadours de l'époque, etc., Ramon Fontan. C'est une vie profonde, un troubadour qui était, pour la petite histoire, qui était assez puissant pour se permettre de draguer à mort l'épouse du seigneur de Peine, du château de Peine. C'était pas rien, hein, c'était pas la petite lavandière sur les bords de la bonnette qu'il draguait. Non, il allait plus haut, hein, vous voyez. Donc, voilà toute cette vie extrêmement importante. Et il y avait évidemment là-dessus la dynamique poussée par la présence de l'abbaye, qui, elle, évidemment, tenait à rythmer la vie de Saint-Antonin avec les cloches. Toutes les journées étaient sous la dépendance du rythme fixé par l'abbaye, et ça ne devait pas être facile. Et puis, ce n'est pas que la journée, c'est le calendrier, toute l'année. Hein, toute l'année, c'était sous la, si j'étais méchant, je dirais la férule de l'Église. Le calendrier obligeait les gens à 180 jours par an de chômage. Enfin, 180 jours sans travail. Et c'est pas évident, hein, vous voyez. Donc, on avait ça. Et ce dont il faut prendre conscience, c'est que ce dynamisme qui pousse la population en avant, il sort de la population. Il sort de la population. C'est horizontal, en quelque sorte. Tandis que le dynamisme qui vient de l'Église, il vient de Dieu, à travers le pape et à travers les évêques, et il atteint les gens. Et on répond par l'obéissance. C'est ça le dynamisme qui pousse en avant quand on se met dans l'optique de l'Église. Or, là, avec Saint-André-Nobleval, on est dans un autre monde, une autre dynamique, et là, c'est là où ça va être intéressant de voir comment ça se passe avec le politique en particulier, avec Raymond VII. Vous voyez ? Or, un dernier point par rapport à cette première série de réflexions, c'est le fait que sur ce faire part de décès d'Oliba, on a 93 donc destinataires, mais qui sont en réseau. C'est un réseau de destinataires, ils se connaissent entre eux, ils se font confiance, ils s'écrivent, ils mènent ensemble le même genre de, on dirait aujourd'hui, de militance, si on peut dire, ou d'action. Et vous voyez, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. Parce que là, on est sur quelque chose qui est à l'intérieur de l'Église et qui vient complètement changer la stratégie de l'Église qui, elle, d'en haut, va imposer, on le voit avec l'Inquisition, toute cette époque-là, où comment l'Église imposait ses directives à travers les conciles, le quatrième concile de Latran, n'en parlons pas. Bon, donc, là-dessus, Oliba a fait une véritable révolution, et on la découvre dans ce morceau de parchemin, qui fait qu'il installe justement quelque chose par osmose. Et je crois à quelque chose, je te le fais partager. J'aime quelque chose, je te le fais partager. Et tous les gens sont à égalité. Oui, et il faut se tolérer. Voilà. Donc ça, c'est une optique complètement différente. Pour vous laisser un petit souvenir quand même concret de ce cher Oliba, il faut savoir que les deux moines qui ont transporté la peau de mouton avec le faire-part devaient ramener un récépissé, comme quoi ils avaient vraiment donné ça à lire. Et du coup, sur le manuscrit, chacun des destinataires devait écrire quelque chose. Mais alors, vous vous en doutez, c'est que très vite, on a écrit dans la marge, etc., et puis on n'en a pas eu assez. Alors, au fur et à mesure que ceux qui voulaient écrire quelque chose augmentaient, on a ajouté de nouvelles peaux de mouton, de nouveaux manuscrits, en les cousant aux manuscrits précédents. Vous voyez. Et donc, on a eu comme ça, on a un manuscrit qui fait 13 mètres de long. C'est pas rien. Et donc, vous voyez la longueur déjà, vous voyez le poids, c'est un gros rouleau, bon, voilà, c'est tout à fait exceptionnel. Bon, comme ça, ça vous permet de vous rappeler que le faire-part de Oliba était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense que ça nous enseigne un certain nombre de choses, et ça, c'est l'ambiance de Saint-Antoine de Nobleval au moment de la naissance de Raymond VII. Et c'est à partir de là que, disons, les gens de Saint-Antonin vont se propulser jusqu'à 50 ans plus tard, jusqu'à la maison Muratée, avec la peinture qu'on aura. Elle a commencé là. Elle a commencé dans cette vie extrêmement passionnante, intéressante, attrayante. Je suis sûr que à la fin du XIIe siècle, les gens de Saint-Antonin étaient heureux de vivre à Saint-Antonin. Ils n'avaient pas peur du lendemain. Bon, il y avait toujours des pauvres, il y avait toujours des problèmes, sans doute. Mais enfin, globalement, c'était très, très positif. Ils vont partir avec ça à la rencontre de Raymond VII. Et c'est là où on va voir comment Raymond VII va aider. Va aider, s'il a pu aider, enfin, va être en communion avec ces gens-là. Mais il se trouve que en 1200, bon, il y a des problèmes, vous savez qu'en 1212, Simon de Montfort est passé à Bonneval, il a pris le pouvoir, il a saccagé un peu l'ensemble, même y compris, en fait, ses routiers, pas lui. Ces routiers ont saccagé l'abbaye, etc. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que 5 ans après, le pape, se rendant compte que l'abbaye avait été tellement abîmée par les croisés, qu'il a décidé de donner une indulgence de 50 jours, une indulgence de 50 jours à tous les pèlerins, à tous les gens qui accepteraient de passer à Saint-Antonin pour donner un coup de main à l'abbaye et pour la réparer. Vous voyez, les indulgences en échange des dégâts faits par les croisés. Bon, mais ça, c'est le plaisir de la vie humaine, quoi. Voilà. Donc, vous voyez le choc en 1212, quand cette vie agréable, ce dynamisme, etc., est cassée net par l'attaque des croisés. Faut essayer de... C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus au départ. Faut essayer de se rendre compte comment ça a été terrible pour les habitants de cette époque-là de faire face à ce saccage. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ce saccage, si on suit simplement le chanoine de Tulède qui leur raconte des trucs comme ça, hein, ça s'est passé en un jour ou deux. Non, ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans. Il faut bien faire attention où ils ont été martelés. Les gens ont été de Saint-Antoine ont été martelés par le pouvoir des croisés. Vous savez qu'après, dans la lutte donc sur le saccage de Saint-Antonin, Baudouin, le seigneur de Bruniquel, qui était le seigneur de Bruniquel, était présent là, et Simon de Montfort lui a fait cadeau, en fief, comme on disait à l'époque, lui a fait cadeau de la ville de Bonneval. C'est un sacré cadeau, la deuxième ville du Rouergue. Et il était chargé, lui, il était chargé de ramasser les impôts, les taxes, les péages, etc., et de faire tuer le burnous aux gens de Saint-Antonin. Bon, et Baudouin, il posera des problèmes, parce que Simon de Montfort lui a donné Saint-Antonin pour lui faire plaisir, mais pour le mettre de son côté, alors qu'à ce moment-là, Baudouin participait à la croisade au nom de Raymond VI. Au nom de Raymond VI. Et c'est 2 ans après qu'il va tourner Cazac et trahir Raymond VI. Bon, l'année suivante, les seigneurs qui sont les faillites, comme on disait, se chargeront de lui monter une embuscade, il passera en tribunal et il sera exécuté. Bref. Mais ici, de suite après, en 1212, dans le courant de l'été, les gens de Saint-Antonin ont passé, imaginez aujourd'hui, hein, ont passé leur temps à réparer, à nettoyer la ville, à réparer la ville avec tous les dégâts qu'il y avait. Et ça a dû être assez dur. Or, dans ce moment-là, il se trouve que au mois de fin novembre, début décembre, 1212, Simon de Montfort décide de bouleverser la constitution qui régissait le comté de Toulouse, les coutumes occitanes, je dirais pour aller vite, et de les remplacer par des coutumes venant du Nord, venant de l'Île-de-France. C'est un bouleversement complet, et c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'il a appelé, lui, les statuts de Pamiers. Quand on lit, il y a une cinquantaine d'articles, si vous lisez les statuts de Pamiers, du point de vue des habitants de Saint-Antonin-Nobleval, c'est une sacrée gifle. Et donc, si vous voulez, les gens, la population à ce moment-là, est encore descendue d'un cran, je dirais, pour être écrasée, puisque c'est plus seulement leurs maisons, les moulins, etc., qui ont été démolis par les croisés, mais c'est leur style de vie. Imaginez que les femmes un peu riches de Saint-Antonin, devenant veuves, parce que ça arrive, surtout en période de guerre, n'avaient plus le droit de se remarier, si elles le voulaient, avec un Occitan. Elles avaient l'obligation de se... Elles pouvaient se marier avec un seigneur venu du Nord, un croisé du Nord, et donc de lui donner les biens qu'elles possédaient, vous voyez, mais pas mais pas avec un Occitan. Ça va jusque-là. C'est vraiment la mise à mort d'un style de vie, d'une culture. Voilà. Ça, c'est à la fin de 1212, avec les statuts de Pamiers. Or, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant sur lequel je vais dire un mot, et puis après, on s'arrêtera parce qu'il faut que je vous donne la parole quand même. C'est au mois de février, le roi d'Aragon, Pierre II, roi d'Aragon, qui est auréolé de la victoire qu'il a menée à Las Navas de Tolosa, vous connaissez ça, contre la coalition des musulmans, les musulmans qui se battaient entre eux comme c'est pas possible. Finalement, ils avaient fait appel à l'émir du Maroc, qui avait rassemblé les troupes pour essayer de freiner l'invasion des seigneurs espagnols du Nord, quoi. Enfin, on ne disait pas espagnols, mais de la Castille, la Navarre, etc. Et là, Pierre II, qui avait été le cœur de l'offensive, avait gagné la bataille. Donc c'était, pour l'Église, c'était fabuleux, enfin Satan prenait le pouvoir, etc. Pour les gens de Saint-Antonin, ça a été un coup dur, parce que tous les gars qui avaient des contrats les marchands qui travaillaient avec les gens avec les marchands de Tolède ou avec les marchands de Cordoba, c'était terminé, ça posait des problèmes. Pour la communauté juive d'ici, qui tenait en main les finances avec les Cahors, avec les gens, les banquiers de Cahors, c'était les juifs il y avait toute une grosse communauté juive ici, très puissante, qui se sont dit, attention, qu'est-ce qui va nous arriver avec maintenant que El Andalus est écrasé. Donc, ce Pierre II, du point de vue de l'Église, donc du point de vue de l'abbaye de Saint-Antonin aussi, c'est vraiment le Messie. Vous voyez, et le pape, le présente comme celui qui va sauver le monde à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est assez époustouflant. Il s'installe à Toulouse avec une petite armée. Il s'installe à Toulouse au château Narbonnais, à la place de Raymond VI, en accord avec Raymond VI, bien sûr. Et là, il fait défiler tous les grands seigneurs qui se sont révoltés contre les croisés. Donc les faillites, comme on disait. Il leur demande de prêter le serment de vassalité. C'est-à-dire qu'il devient, il se situe en tant que, je ne voudrais pas employer le mot, mais je n'en ai pas d'autre sous la main, en tant que suzerain de l'ensemble de l'Occitanie. Vous voyez, il remplace Raymond VI et son fils, Raymond, qui deviendra Raymond VII. C'est lui qui prend le pouvoir. Et il demande à tous les seigneurs de faire pareil. Et il défile, pendant le courant du mois de janvier, il défile et tous jurent fidélité, vassalité à Pierre II. Et au début de février, il a quelque chose d'exceptionnel, et j'en parle parce que c'est intéressant de le savoir, si vous ne le savez pas. C'est qu'il demande aux 10 seigneurs qui vivent en permanence, aux 10 co-seigneurs, on dirait, au château de Peine, de rassembler tous les seigneurs faillites de la région autour d'eux, de venir à Toulouse, au château Narbonnais, et il leur explique qu'ils vont devenir le pôle de la lutte contre les croisés. Si vous voulez, il fixe un territoire, ici, la région ici, il le fixe comme point d'appui et sur lequel on ne transigera pas. C'est intéressant parce que ces seigneurs-là, présents à Toulouse, jurant le serment de vassalité on ne dira pas au roi d'Espagne, mais presque, enfin, à Pierre II, il y a le seigneur un des seigneurs de Saint-Antonin. Adhémar, l'un, avait été mis en prison par Simon de Montfort en 1212, Mais là, en 1213, Saint-Antonin entre dans cette coalition menée par le suzerain majeur de l'Occitanie pour aller contre la croisade. Vous voyez comment, à ce moment-là, à l'intérieur de la population de Saint-Antonin, il y a eu comme un peu d'espoir qui a pu se mettre en route en disant, mais peut-être qu'un jour, on va pouvoir s'en sortir. Peut-être qu'avec... Bon, ça nous change tout. Et, parce que... Pierre II, c'était quand même pas un saint, et puis c'est pas un gars du coin. Hein. Mais enfin, ça donne un peu d'espoir. Or, vous le savez aussi bien que moi, c'est à peine terminé, là, Pierre II rassemble des armées d'un peu partout, il fait venir une armée d'Espagne, etc. Et au mois de septembre, il décide d'attaquer de front les croisés. Simon de Montfort. Il s'est emmuré, il se rencontre emmuré, et par malchance, Pierre II est tué, emmuré. Et donc tout s'écroule. Mais pendant 8 mois, Saint-Antonin s'est trouvé, comme beaucoup d'autres endroits, s'est trouvé donc sous la gouverne de Pierre II. Si je dis ça, c'est parce que c'est pour montrer ce brouhaha. Lorsque, au mois de septembre, les seigneurs autour de, des seigneurs de peine et les gens, les soldats qui ont pu être, ramassés ici, parce qu'il y a eu des volontaires ici, il y en a qui ont été obligés par Baudouin pour aller aider les croisés, mais il y en a qui ont été volontaires pour aller aider Raymond VI et Pierre II dans l'attaque de Simon de Montfort. Et ils ont perdu la bataille. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont revenus, heureusement. Et vous voyez, quand les nouvelles qu'ils ont ramenées, ce n'était pas fait pour remonter le moral. Et donc, ça a continué d'écraser encore un peu plus les gens de Saint-Antonin. Mettez-vous à la place des jeunes, où on leur dit, bon, allez hop, il faut étudier le latin, le grec, parce que l'avenir, c'est ça, l'avenir est à ceux qui font des études, ou ceux qui se lancent dans le commerce du drap, tous ces travaux-là, etc. Les jeunes, ils n'ont pas envie. Bon, on n'a qu'à voir aujourd'hui le coup de massue que la jeunesse a aujourd'hui. A reçu avec le Covid-19. Hein, les étudiants, ils en ont pris un coup. Et il y en a qui ne sont pas tout à fait au point. Et donc, ça a été aussi comme cela à cette époque-là. Et le dernier coup qui va les mettre complètement KO, c'est l'année suivante, en 1215, l'année après, 1215, le concile de Latran, le quatrième concile de Latran, où là, ils apprennent que l'Église destitue complètement Raymond VI et son fils. Donc il n'y aura pas d'espoir, on déracine complètement la dynastie des Raymondins par rapport à l'histoire de l'Occitanie. Donc vous voyez, on est parti en 1200, d'une vie extrêmement passionnante, intéressante, dynamique, etc., et en l'espace de 4 ans, la croisade est venue et a démoli tout cela, non seulement des maisons, non seulement des espoirs, etc., mais véritablement les structures, la culture, la langue, tout ce qui faisait la vie à Saint-Antonin-Noble-Val. Et c'est là que Raymond VII va arriver pour remonter ça. Mais je vais m'arrêter parce que je pense qu'il faudrait qu'on puisse discuter un peu de tout ça. Oui ?
Alors, Michel m'a dit, je ne veux surtout pas faire une conférence, mais c'est passionnant. Mais il faut absolument que tu m'arrêtes tout ça. Mais pourquoi ? Mais moi, je trouve que c'était bien de ne pas t'arrêter. Mais c'est toi qui m'as dit, il faut faire attention, donc je le fais. Alors, je vais, mais je pense que tu vas reprendre après les interventions après les interventions des personnes. Alors je vais en faire une petite, moi, concernant quand tu as parlé du bonheur de Saint-Antonin, avant la croisade, quand tu as parlé des échanges économiques par rapport à l'industrie, à l'artisanat et par rapport au commerce. Et tu as cité Florence, tu as cité Al-Andalus. D'abord, il faudrait que je... Et puis tu l'as mis en rapport, très bien d'ailleurs, avec les troubadours. Et tu sais que, bon, tu as cité Raymond Jourdan ici, qui est pratiquement inconnu au bataillon ici, hein, par la population et par... Et il n'y a rien pour le présenter, il n'y a absolument rien pour le présenter aux touristes, aux gens qui veulent s'informer ici. Donc, tu as bien fait de dire son audience. Et moi, je pense qu'il faut dire plus sur son audience parce que tu t'es arrêté à l'Andalous et à Florence. Mais en fait, il faut citer aussi ce qui est devenu la Roumanie, ce qui est devenu maintenant la Hongrie et plus loin. Il faut signaler que, bien sûr, l'Angleterre. Il faut signaler l'Angleterre, puisque par l'intermédiaire des ducs d'Aquitaine et surtout d'Aliénor, mais même avant, les Anglais connaissaient déjà la tradition des troubadours, les Allemands, les Minnesänger. C'est tout ça pour dire que le monde européen et ce qui est devenu la France ne tournait pas autour de la ville de Lucette, de Paris, je veux dire. Ça tournait pas autour de ça. Les gens d'ici avaient des relations. Regardez, par exemple, pour aller en Angleterre d'ici, je crois qu'en diligence, il fallait, je pense, un mois, peut-être, hein, quelque chose comme ça. Quand on allait à Londres, de Bordeaux à Londres, il fallait 2 jours, hein, en bateau, ou 3 jours en bateau. Donc, le monde était totalement différent. Et comme ici, on a l'habitude de penser... tout le monde a une tour Eiffel dans la tête et a l'air de penser que tout a toujours été fait depuis Paris. En fait, il y avait une autonomie complète et un rôle. Voilà. Alors, bon, j'ai parlé des Minnesänger pour les troubadours. Tu as parlé de Ripoll. Là-bas, c'est le catalan. Hein, c'est pas, même si les textes étaient en latin, avant que les troubadours chantent et écrivent en langue vulgaire, ce qu'ils appelaient langue vulgaire, c'est-à-dire l'occitan. C'était écrit effectivement en latin, mais leur langue, c'était l'occitano-catalan, le catalan et l'occitan. Donc, c'est le tableau que tu as brossé. Tu ne pouvais pas tout dire, bien sûr, mais la partie culturelle est extrêmement importante.
Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. On pourrait faire des heures et des heures de conférences là-dessus, mais il suffit de penser que Le petit Raymond VII qui arrive, qui naît en 1197 et qui va venir booster, en quelque sorte, redonner vie à Saint-Antonin Noble-Val. C'est le petit-fils d'Aliénor d'Aquitaine. Sa mère, Jeanne d'Angleterre, Jeanne Plantagenet, est une femme absolument... fabuleuse. Elle est dans ce monde de la courtoisie, si on peut dire. Et Raymond VII, tout jeune, va être éduqué complètement par le monde des troubadours, parce que son père, Raymond VI, était absolument un fanat du monde des troubadours. On ne peut pas comprendre Raymond VII si on n'a pas derrière toute cette éducation au monde des troubadours, à la poésie. Et dans ce monde des troubadours, par l'intermédiaire justement des Plantagenêts, on rejoint tout un courant d'El Andalus. Et ça, c'est bon, on ne va pas partir là-dessus, mais c'est extrêmement puissant. On est en train d'ailleurs de redécouvrir aujourd'hui dans le monde, dans les universitaires arabes, de langue arabe, sont en train de redécouvrir, de faire une révolution, de redécouvrir les valeurs de l'islam telles qu'elles étaient vécues par El Andalus à cette époque-là, au 11e, 12e siècle. Et ça change complètement les données, c'est extrêmement important. Bon, je passe là-dessus. Voyez ce qui a... J'ai insisté pour dire que c'était vraiment une joie de vivre à Saint-Antonin. Donc jusqu'à ce que les croisés arrivent, on est en 1200, 14, à la fin de 1214, les gens apprennent qu'il faut aller se rassembler à, enfin, les gens, les évêques, les abbés, etc., les seigneurs, à Rome, au Latran, parce qu'il va y avoir un concile qui va remettre en route toute la chrétienté. L'abbé de Saint-Antonin a reçu l'invitation, il est parti au concile de Latran. Et c'est lui qui portera des nouvelles du concile de Latran. Est-ce qu'il était partisan de déshériter le comte de Toulouse ou pas? Ça, on n'en sait rien. On n'a pas les... Vous voyez? Mais enfin, la population de Saint-Antonin était liée avec le concile de Latran. Et voilà qu'ils reçoivent cette dernière nouvelle complètement terminée avec les Raymondins, complètement terminée avec le passé, l'Occitan, les statuts d'Occitanie, etc., etc. Et là, c'est vraiment, il y a plus d'espoir pour la population ici. Les gens n'ont plus envie de faire du commerce, les gens n'ont plus envie de se fatiguer à travailler, etc. Bien sûr, il faut vivre, mais le dynamisme a été cassé complètement. Or, janvier 1216, tout d'un coup, des voyageurs passent et disent, vous savez pas, la révolution, le petit Raimondette a dit au pape qu'il refusait les décisions du concile et que désormais il allait se battre contre les croisés et contre Simon de Montfort. Il a dit sans doute que ça sera ou lui ou moi, mais il y a un des deux qui devra y passer. Vous voyez un peu, tout d'un coup, cette nouvelle. C'est les gens qui, traditionnellement, depuis toujours, les vieux qui avaient enfin, moi, je sais que j'ai des souvenirs qui datent de 50 ou 60 ans, donc c'était la même chose à cette époque-là, au temps des comtes de Toulouse. Vous voyez, on voulait que ça revienne, que ce monde des troubadours revienne, du commerce international revienne. Et peut-être que le petit Raymond VII, Raimundet, va faire quelque chose. Il y a un début d'espoir qui se met en route. 3 mois après, à Beaucaire, ils apprennent que pour la première fois, et la seule fois d'ailleurs, la première fois, le chef de la croisade, Simon de Montfort, a été battu par Raimundet à la bataille de Beaucaire. Raimundet a eu une stratégie, non pas d'affrontement, mais de se laisser affronter. Et il a fatigué l'agresseur. Il a gagné en éreintant l'agresseur, au lieu de se fatiguer lui en attaquant. Ça, c'est génial comme stratégie. Alors, du coup, tout est possible. Tout d'un coup, la vie reprend à Saint-Antonin. Ce gars qui va peindre le portrait de Raymond VII à la maison Muratée, à cette époque-là, il a quoi, 20, 25 ans, sans doute. C'est à peu près ça. Il reprend du poil de la bête. Il se dit, mais ça y est, le commerce va reprendre, tout va reprendre. Bon, on en met un coup, on se serre les coudes, on en met un coup. Et on aide le seigneur de peine, puisque c'est ça le point central ici, à tenir bon. Et donc, ça va continuer. Et ça n'est pas un petit moment comme ça. C'est que ça continue, ça va continuer en 17. Vous voyez, en 17, on va se retrouver avec Simon de Montfort qui veut véritablement casser les reins à Toulouse et à Raymond VI et qui donc assiège Toulouse et met le paquet. Et à ce moment-là, au début juin, première semaine de juin, Raimundet vient, qui travaille en Provence, autour de Beaucaire, etc., là-bas. Il arrive dans Toulouse, 8 jours après. En fait, c'est pas lui, c'est peut-être pas de sa faute, mais en tous les cas, 8 jours après, Simon de Montfort est tué et les croisés partent en débandade. Vous voyez un peu les gens de Saint-Antonin qui sont allés s'enfermer, certains, ceux qui pouvaient se battre, sont allés s'enfermer dans Toulouse pour augmenter encore la pression contre la croisade. Et donc, ils reviennent, je dirais, excusez l'expression, mais ils reviennent gonflés à bloc. La vie recommence. Et tout est possible. Et avec Raimundet, tout est possible. Et il va le montrer. Il va acculer le fils de Simon de Montfort à remonter vers le nord. Et on peut dire que la croisade bat de l'aile. Et le pape a beau faire tout ce qu'il veut, et il n'y arrive pas. Or, on va se retrouver en 1222. Le temps passe vite, hein, mais oui, 1222, le père de Raymond VII, Raymond VI, meurt subitement, une fatigue, et Raimundet est choisi par les consuls de Toulouse et des grandes villes, donc ceux de Saint-Antonin, est choisi avec les seigneurs comme le nouveau comte de Toulouse. Alors que l'Église et le roi de France sont contre. Vous voyez ? Et à ce moment-là, lui, il va avoir deux choses. Une, il dit, bon, mon objectif numéro un, je me fais reconnaître comte par l'Église et par le roi de France. Ça, c'est l'objectif. À partir de maintenant, je vais tout faire pour ça. Ça, c'est un point. Par rapport à la population, parce que ça compte, hein, par rapport à la population, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais reproduire, il ne le dit pas comme ça, ça c'est moi qui le dis, je vais reproduire Saint-Antonin Nobleval. Je vais sur un piton à cordes et je crée une cité à partir de zéro. Mais, j'ai pris des leçons avec Saint-Antonin Nobleval, j'ai vu qu'avec les seigneurs ça ne collait pas, et j'ai vu surtout que l'Église, avec l'abbaye, se met la panique là-dedans, donc, à cordes, il n'y aura pas d'église et il n'y aura pas de seigneur. Il y aura une place vide, la place du marché. Et les gens qui habiteront autour de cette place-là, eh bien, ils se débrouilleront entre eux. Comme ça se fait ailleurs, ils éliront des consuls, ils décideront de leur vie, etc. C'est un monde nouveau qui se met en route. Vous voyez, pour les gens de Saint-Antonin, c'est absolument fabuleux. Et il va continuer comme cela. Imaginez que entre ce moment-là et sa mort, 25 ans plus tard, pas tout à fait, 25 ans plus tard, Raymond VII a lancé une ville nouvelle chaque année. Une nouvelle ville tous les ans. Bon, il y en a qui ont progressé, etc. Et puis il y en a d'autres qui vivotaient comme elles ont pu. Mais il a lancé un énorme mouvement de rénovation du comté de Toulouse à partir de cette optique dont je parlais au début, et c'est pour ça que j'ai été un peu long au début, si vous voulez, le dynamisme urbain. Quand on est habitants du même endroit, qu'on se cogne les uns sur les autres, du matin au soir, 365 jours par an, si on peut dire, il en sort quelque chose. Oui. Et pour Raymond VII, il dit, il en sort un avenir. On bâtit l'avenir avec ça. Et il va se donner à fond avec ça, avec Sicard à la main. Bon, je passe là-dessus, vous connaissez ce développement-là. Mais ce lien entre Saint-Antonin Nobleval et le projet, je dirais, de Raymond VII, de reconstruire le comté à partir de l'aventure urbaine, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je pense que c'est à creuser, au niveau historique, c'est extrêmement important. Et vous comprenez aussi que les gens, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu que d'une part, oui, ils faisaient des villes nouvelles, oui, Cordes a été bâtie à ce moment-là, en 1222, on est en train de faire le 8e centenaire, hein, pas très bien comme il faudrait, mais en fait, ça fait rien. La population voit ça. Buzet, enfin, d'état, on fait la liste. Maintenant, on en fait le réseau des Bastides, etc. Vous voyez, donc, il y a cet aspect-là qui est extrêmement important. Et il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a été aussi très marqué par cette notion de réseau dont je parlais avec Oliba, c'est-à-dire l'osmose, comment les gens se passent leur savoir, leur richesse, leurs espoirs, leurs rêves, etc., ou leur argent quelquefois aussi, ils se le passent des uns aux autres pour faire grandir le monde, pour aller de l'avant dans un véritable développement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment l'opposé de ce que prône l'Église. L'Église dit « Obéissez et vous irez au ciel ». Et un des points extrêmement sympathiques, pour, au moins pour moi, c'est que Raymond VII, dans cette offensive qu'il y avait sur l'ensemble des deux versants des Pyrénées pour la trêve de Dieu le dimanche, donc ne pas se battre le dimanche, il a refusé de suivre ça. Alors que c'était un bon chrétien. Mais il a dit à l'Église, non, ça c'est mon pouvoir de militaire, c'est pas à l'Église à prendre des décisions sur mon travail à moi. C'est moi qui décide quand je me bats ou quand je me bats pas. C'est pas l'Église qui va me dire, dimanche t'arrêtes de cogner. Mais il s'est fait incendié, je dirais, il s'est fait honnir, il s'est fait excommunier des tas de fois. Imaginez que ce cher Raymond VII, entre 1229 et 1249, je dis 29 parce que c'est une date particulière, comme vous le savez, le traité de Paris, pendant ce temps-là, il n'a pas réussi à passer 3 mois sans être excommunié. Faut le faire. Oui, bon. L'excommunication, elle s'enlevait 8 jours après, ou déjà, c'est tout un monde. Mais cette pression, énorme. Et puis, donc pour les gens de Saint-Antonin, ils le savaient. Quand il était excommunié et qu'il venait à Saint-Antonin, les gens n'allaient pas à la messe. Parce qu'à l'abbaye, ils n'avaient pas le droit d'aller à la messe. Et c'est au point que on voit l'évêque de Toulouse, une fois, qui est venu le voir, en lui disant, je suis obligé de faire un grand rassemblement, un synode, un grand rassemblement des curés, etc., etc. Est-ce que tu veux bien quitter la ville pendant une journée pour que je puisse dire la messe et tout le reste? Parce qu'il était excommunié. Et Raymond VII lui dit, non mais ça va pas dans la tête, c'est toi qui m'excommunies et maintenant tu me dis de sortir pour que tu puisses dire la messe. Enfin vous voyez, c'est délicieux des histoires comme ça. Bon, moi, je trouve que Raymond VII, il est, de ce point de vue-là, il est fabuleux, quoi. Bon, le dernier point qu'il faut souligner, c'est que il avait pris comme objectif, en 22, d'être reconnu comte, donc de recevoir de nouveau le comte reconnu héritier du comté de Toulouse. Et ça, il n'y avait que le roi de France qui pouvait le faire, puisque c'était le roi de France était le suzerain de Simon de Montfort. Et donc, c'est lui qui possédait en quelque sorte le comté de Toulouse. Et il a mis quand même 7 ans, entre 1222 et 1229. En 1229, il a réussi à monter à Paris, grâce à Blanche de Castille, qui était sa tante, il ne faut pas oublier. C'est des histoires de famille, tout ça, il ne faut pas... Faut surtout pas l'oublier, sans Blanche de Castille, donc sans des femmes de poids, il n'aurait jamais pu réussir. Hein. Ouais. Bon, il est monté à Paris et il a été reconnu par Louis IX, le roi de France, comte de Toulouse. Il a gagné son pari. Ce qu'il y a, c'est que l'Église et puis des tas d'historiens, etc., ont vu le traité de Paris uniquement d'un point de vue négatif. Alors que les gens, ici à Saint-Antonin, ont pavoisé, ont été heureux, ont sans doute sorti quelques bonnes bouteilles, s'il y en avait, parce qu'il avait réussi à gagner et retrouver son comté. Et je pense que là-dessus, les historiens modernes, ils devraient quand même être un peu plus sérieux, de mon avis, à regarder comment ça s'est passé dans la tête et dans le cœur des gens, pas seulement dans les documents, vous voyez. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, du point de vue des habitants, surtout du point de vue de ceux qui ont des responsabilités, quand vous avez un marchand qui envoie des gabarres entières, des tonnes de tissus jusqu'en Hollande, jusqu'aux Flandres, etc., c'est des gens qui s'intéressent à la géopolitique. Et ils partent pas comme ça la bouche en cœur. Hein. Et donc ces gens-là qui réfléchissent, qui regardent comment tourne le monde, qui pensent à l'avenir, et donc le propriétaire de la maison muratée en question, vous voyez, il est arrivé à un moment donné, au mois de fin octobre 1249, tout d'un coup, il a appris que Raymond VII était mort. Il a, juste à 3-4 kilomètres de Millau, il a eu un malaise, bon, il est mort. Et il a appris qu'à ce moment-là, on allait faire descendre son corps sur une barque le long du Tarn pour l'amener à Toulouse, et de Toulouse, l'amener où il a décidé, à Fontevraud, etc. Et alors, évidemment, je ne sais pas, si j'étais à sa place, c'est ce que j'aurais fait, et vous aussi, vous l'auriez fait certainement. Et il a pris une de ses gabarres, et il a dit à tous ses collègues, etc., on va jusqu'au bord du Tarn. On va dire un dernier salut à Raymond VII, c'est pas possible de faire autrement. Et donc, ils ont passé la journée sur l'Aveyron, pour descendre jusqu'au Tarn et remonter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évidemment discuté de Raymond VII, vous vous en doutez. C'est ce qu'on aurait fait nous autres, tous nos souvenirs, etc. Et donc, quand il est remonté, quand il est rentré à Saint-Antonin, il s'est dit, ça c'est pas possible, mais il faut que je garde une marque de Raymond VII. Et donc, il a demandé à un peintre de faire la fresque de la maison muratée. Enfin, ça, c'est moi qui l'invente, mais on ne voit pas comment ça aurait pu se faire autrement. Vous voyez, je veux dire, ça sort véritablement cette peinture de la maison muratée, elle sort vraiment de la population de Saint-Antonin-Nombleval. Elle est le résumé des 50 ans, de ces 50 premières années de l'histoire du XIIIe siècle. Voilà, je m'excuse de parler aussi longuement. Vous avez la parole. Moi, je suis totalement libre. Ne vous croyez pas obligé de rester.
Oui, je voulais vous demander, par rapport au catharisme, on a parlé des cathares, mais en fait, eux, on les considérait comme ça, tous ces gens de Saint-Antonin-Nombleval.
Pour le problème des cathares, d'abord, je n'emploie jamais ce mot-là. Je préfère employer la traduction moderne du mot qui était employé à cette époque-là. Vous savez que le mot à cette époque était un mot grec, hérésis. Hérésis, ça veut dire marginal. Mm. Marginal. Ce que vous appelez les cathares, ce sont ceux qui se mettent en marge du texte officiel de l'Église dans leur vie. Ils ne sont pas contre le texte, automatiquement. Ils ne sont pas hors du texte. Ils ne sont pas hors de l'Église. Ils ne sont pas hors du christianisme. Ils sont sur les marges. Parce qu'on estime qu'il y a des points qu'on a... Vous voyez, etc. Donc il y a toute une population, mais c'est toute une histoire qui a commencé au XIe siècle, qui s'est beaucoup développée au XIIe siècle, où il y a eu des hommes de très haut niveau, Robert d'Arbrissel, Henri de Lausanne... Tous ces gars-là, c'est des hommes fabuleux, c'était des seigneurs qui avaient reçu une éducation avec les troubadours, avec tout ça, quoi, hein, et qui décident, qui se disent, c'est plus possible de rester là dans le texte officiel du discours de l'Église, il faut s'en sortir, il faut aller sur les marges, là où c'est encore blanc. Hein, et ils quittent leur richesse. Ils se mettent pieds nus, un sac de jute sur le dos, et ils vivent dans la nature, végétariens absolus. ils disent, je dois sacrifier le moins possible à ce qui fait vivre l'Église, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent. C'était les deux mots, les deux mots de l'Église à l'époque, la recherche du pouvoir, la recherche de richesses matérielles, voilà, et ils quittent ça. Et ils ont essaimé. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il y en a qui sont venus ici, à Saint-Antoine-et-Nobleval, et il y a des gens qui ont été touchés par ça, et qui se sont dit, mais ils ont raison, ces gars-là. Il faut absolument arrêter de se laisser aller, comme aujourd'hui, vous avez des gens, je ne vais pas dire du mal, surtout pas, c'est un exemple, mais vous avez des gens qui pensent qu'il faut arrêter de manger que de la viande et se mettre à des régimes qui respectent davantage la nature, etc. C'est de cet ordre-là. C'est des gens qui prennent une décision et qui, à 2, 3, 4, se disent, allez, on va se filer des menus, on va discuter, etc. On va se rendre des services. Et notamment là-dedans, les femmes. Parce que parce que ce sont des femmes, c'est le monde tourne. L'avenir de l'homme, c'est la femme, dit un poète, n'est-ce pas? Mais surtout parce que elles vivent seules, je veux dire. Leur mari est toujours pris par, surtout au temps de Raymond VII, il est pris avec les guerres, les croisades, etc. Donc elles se retrouvent avec leur maison, ou elles se retrouvent habituellement avec la maman, la grand-mère, quelquefois la belle-mère, la fille, et quand il y a une de ces dames qui est enceinte, on va l'aider, et ensuite on va prendre le bébé, on va l'éduquer, etc. Donc il y a des petites cellules comme cela, de 2, 3, 4 femmes qui se sont propagées, mais à une vitesse enfin, quand même en 50 ans, vous voyez, mais enfin qui se sont propagées partout. Ici, il y en avait dans tous les villages ici. Hein, il y en avait. Et l'Église a pris peur parce qu'elle s'est rendue compte que tout d'un coup, les gens disaient, mais je crois à l'amour de Dieu, je me débrouille avec Dieu. Enfin, ils se font pas leur religion, mais ils font des choix. Oui. Et donc, la réaction de l'Église a été très, très dure, ça se comprend à l'époque. Parce qu'elle a vu que là, on allait lui faire très mal. Mais si on l'a touché dans le domaine du pouvoir et dans le domaine de l'argent, il ne lui restait pas grand-chose, vous voyez, pour faire rêver le monde. Et donc, elle a réagi très durement en disant, ce sont des hérétiques. Et au lieu de voir qu'il s'agissait d'un problème de vie concrète, l'éducation des enfants, les relations... à l'intérieur du couple, etc., elles en ont fait un problème théorique, un problème théologique. Et le quatrième concile de Latran, à ce point de vue-là, est terrible. C'est qu'il a mis en exergue tout un catéchisme qui fait que si on n'obéissait pas aux ordres de l'Église, on était automatiquement, du point de vue théologique, hérétique. Donc, en dehors du coup. Voilà. Et ça s'est très étendu, et un des problèmes qu'il y a eu pour nous, pour la région d'Occitanie, c'est que Raymond VI, moi il ne savait pas trop comment faire, etc. Mais Raymond VII lui, était un homme qui tenait absolument à, comment dirais-je, à respecter toute la population, les gens où ils étaient, etc. Il avait fait l'expérience de Beaucaire, qui est fondamentale pour lui. Toute l'éducation qu'il avait reçue sur la beauté du monde courtois, de l'amour, de la poésie, etc., tout ce monde-là, à Beaucaire, il l'a transposé sur la population ordinaire, sur les cuisinières, les lavandières, etc., etc. Véritablement transposé dans la vie quotidienne d'une population ordinaire toutes ces valeurs qui faisaient à l'époque ce qu'on lui avait donné, le monde courtois. Et donc, on pourrait résumer d'un mot, je dirais, c'est un fanat de la tolérance. Pour lui, il n'y a qu'une chose qui compte, la tolérance. Accepter les gens comme ils sont, ou les aider à évoluer aussi, etc., mais être tolérant. Et donc, de ce point de vue-là, tout le monde le savait à l'époque, mais il donnait des ordres à tous ces bails, à tous ces sénéchaux, etc., en leur disant, dans les forêts, puisque les femmes, à cause de l'Inquisition, étaient obligées de se cacher dans des grottes, dans des forêts, dans des cabanes, etc., il disait à ces forestiers, quand vous rencontrez ces femmes, vous les laissez tranquilles. Et surtout, vous n'allez pas aller dire au curé du coin, ou au sénéchal du coin, ou à plus forte raison aux inquisiteurs, que vous avez rencontré des marginaux, des marginales, vous voyez, des personnes. Ouais. Et donc, la politique de Raymond VII, de ce point de vue-là, il n'était pas, il n'avait pas à se mettre dans la marginalité, puisqu'il était comte de Toulouse, donc c'est lui qui faisait le texte de la loi, si on peut dire. Donc il n'allait pas se mettre en dehors de ça. Mais il a fait énormément pour protéger tout ce mouvement. Mais là, il faudrait... C'est extrêmement complexe parce que toute l'histoire a été trafiquée, elle est encore trafiquée, les experts se battent entre eux, mais c'est incroyable. Ils se battent, des universitaires de Toulouse avec qui je bois le café quelquefois, qui se battent avec d'autres universitaires sur ces problèmes-là. Vous voyez, sur ces problèmes-là. Donc, il faut faire attention. Si vous avez une deux minutes de plus, juste si vous permettez. À cette époque-là, il y avait dans le coin ici, dans la région, il y a un petit village qui s'appelle Salmiège. Vous connaissez peut-être, à côté de Villefranche-de-Pana, par là, vous voyez, autour de Nocelles, bref, peu importe. Là, il y a un gars qui est né, Béranger, un gars qui s'appelle Béranger. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ça ne fait rien. Béranger, il naît, c'est le fils d'un seigneur. Il fait des études, il devient doué, il devient dominicain. Il fait un très bon boulot de dominicain, et donc il devient supérieur des dominicains pour le coin ici. Hein. On n'est pas loin de Saint-Antonin, Bonneval, hein. On n'est pas à l'autre bout de l'Espagne. Hein. Non, non, voilà. Et puis, il fait tellement bien ce travail-là que le pape le nomme inquisiteur pour la région. On n'a pas les comptes rendus exacts de ces tribunaux, mais enfin, peu importe, il fait un bon boulot d'inquisiteur, et le pape, pour le remercier, le nomme évêque, et même archevêque. Vous savez où? Je vous le donne en mille. À Saint-Jacques-de-Compostelle. Lui, d'ici, il est nommé évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on ne va pas s'arrêter à Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'il faudrait changer toutes nos façons de voir. Saint-Jacques, les pèlerinages au XIIIe siècle et au XVe siècle, ce n'est pas du tout pareil. Mais enfin, laissons ça de côté. Pour vous donner juste le goût, quand il arrive, lui, évêque, il arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, à la petite ville de Saint-Jacques, et là, il se retrouve avec une délégation de la population qui lui dit « On ne vous veut pas comme évêque ». Rentrez chez vous, vous ne rentrerez pas ici. Et pour bien lui montrer que c'est sérieux, ils mettent le feu à l'évêché. Ça ne traîne pas, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui, évêque? Il dit, bon, c'est bien, il a un château, il récupère un château dans la région, il s'installe et il dit, on va commencer à discuter. Il met de son côté d'abord le roi de Navarre pour être couvert, et puis il discute avec. Et progressivement, en 3 mois, ça a pris 3 mois quand même, hein, il arrive à avoir une délégation de la population qui vient pour régler les statuts, enfin, travailler ensemble, etc. Bon, très bien, ils viennent au château, ils discutent, ils signent les documents, tout ça va très bien, on fait un bon repas, et à la fin du repas, vous savez qu'est-ce qu'il fait l'évêque? Il fait exécuter toute la délégation. Il ne traîne pas, hein. Vous vous rendez compte? Le monde, comme quoi il ne faut pas rêver d'un... Il ne faut pas rêver. Mais c'est... Pourquoi je dis ça? Parce que ce gars-là, enfin ce gars-là, je m'excuse, mais enfin, Monseigneur Béranger de Landor, ce gars-là, il a été, d'abord il est disciple, il a été visiteur, avec tout ce que ça signifie par rapport au, au Qatar dont on parlait à l'instant, et il a été responsable de tout le système des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, il faut savoir, mais ça, on ne va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui, c'est que les pèlerins de Saint-Jacques, c'était tous des condamnés. Ils n'y allaient pas pour le plaisir. C'était des condamnés qui allaient là-bas, et c'était des durs. Et il faut savoir qu'en plus, quand ils étaient condamnés à aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait un laps de temps qui était fixé. Ça pouvait aller sur plusieurs années. Le véritable sens du pèlerinage, entre guillemets, de Compostelle, c'était de sortir ces mécréants, ces assassins, d'autres, de sortir ces bêtes galeuses, les sortir du troupeau pour les envoyer en exil. On en a qui ont été expulsés de chez eux pour 8 ans. 8 ans. Le pape avait demandé à Raymond VII de partir pour 5 ans. Donc c'est le pèlerinage, c'est l'exil. C'est après, on n'y va pas de son plein gré. Pas du tout. Quelques-uns, bien sûr, il y a quelques-uns, mais pas tant que ça, parce que c'était quand même dangereux aussi. Après ça, en dehors de ça, il y avait simplement, pour la com, je dirais, les seigneurs, les grands seigneurs, le roi de France, Turenne en Auvergne, le comte de Toulouse, etc., qui allaient, parce qu'il fallait se montrer là-bas. Aujourd'hui, ça continue. On a le président Macron qui fait un pèlerinage à Dubaï. Dubaï, c'est le Saint-Jacques de Compostelle du monde moderne. Donc, pour dire que ça ne change pas beaucoup, c'est de la com, on ne va pas croire à ça. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est qu'il faut se rappeler, c'était très dur, la vie était très dure à Saint-Jacques de Compostelle, parce que ça avait été le point de départ de l'anti-musulmane, la lutte contre El-Andalus. Et c'est justement les, disons, Pierre II et d'autres qui ont créé une ligne de châteaux forts, de villages, d'églises, etc., de Barcelone, tout le long des Pyrénées, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, pour faire redescendre progressivement les musulmans, les sarrasins, sur le sud. Il ne faut pas oublier non plus que Saint-Jacques de Compostelle, c'était d'abord le pèlerinage des musulmans du sud, des musulmans d'Andalousie vers Saint-Jacques. C'est ensuite que nous, on les a expulsés et remplacés par de bons chrétiens. Enfin, vous voyez, c'est très, très mélangé, et vous comprenez que les gars, ils n'avaient pas envie de faire des cadeaux à leur évêque quand il est arrivé.
Ce qui s'est passé au Concile de Latran pour que Raymond VII récupère ses biens, alors que le pape l'avait complètement déshérité et captait son héritage. Voilà, c'est oui. la question. Donc comment ça s'est passé pour qu'il récupère une partie de son héritage?
Il y a une première chose, c'est que le pape s'est fait coincer par les évêques. Le pape, lui, voulait sauver ce qu'il pouvait, parce qu'il se rendait compte que la croisade tournait mal, enfin elle tournait mal, elle ne tournait pas comme il voulait, et donc il s'est retrouvé coincé par les évêques, il a essayé d'aider Raymond VII. Il savait que pour Raymond VII, son père, il ne pouvait rien faire. Mais pour Raymond VII, donc il a fait ce qu'il voulait. À ce moment-là,
il y a eu une chose, il a eu une chance, c'est que les évêques anglais, qui dépendaient de Plantagenet, enfin vous voyez tout ça, l'histoire de famille, se sont opposés aux autres évêques en disant, attention, dans le droit suivi en Angleterre, mais également un peu partout en Europe à l'époque, lorsqu'une femme meurt et qu'elle possède des biens, elle a un douaire, une dot, etc., son mari ne peut pas hériter de cela. C'est son fils, ou ses enfants si elle en a, enfin d'autres. Mais ça ne peut pas être récupéré par le mari. Donc, nous, évêques, donc l'Église, n'a pas le droit de s'adjuger les biens de Jeanne d'Angleterre, de la mère de Raymond VII, puisque ça ne revient pas à son père, à Raymond VI. Donc ça, il faut le lui garder. Et c'était assez important, parce qu'il y avait toute une partie en Provence, on ne va pas aller dans le détail, mais il y avait également toute une autre partie ici, sur le Quercy, le Cahors, etc. C'était très important. Et donc, ça, Raymond VII dit, mais ça, normalement, ça m'appartient. Et le pape lui dit, oui, bien sûr, ça t'appartient. Le problème, c'est que le chef de la croisade l'a récupéré, et donc tu l'as perdu, quoi. Et c'est là où il dit, mais attention, si je l'ai perdu, moi je ne me suis pas encore battu, moi je vais me battre pour récupérer ces biens qui m'appartiennent. Donc je ne me bats pas contre la croisade. Je me bats contre le fait que des croisés ont volé les biens de ma mère. Et ça c'est mon droit absolu. Et le pape lui dit, bien sûr, bonne chance, même il lui dit, si on peut dire, si tu peux, ça t'as mieux. Donc, de ce point de vue-là, les seigneurs qui étaient autour de Raimondette ont pris peur, ils se sont dit, il va se faire excommunier ou un truc comme ça, mais le pape non, lui a dit non, mais attention, ça se fait selon les règles, etc. Mais il a montré, et avec l'appui du pape, il a montré véritablement qu'il était dans le droit. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux de notre point de vue à nous aujourd'hui, mais dans le droit de l'époque, c'était normal. Et là-dessus, c'est le pape en a profité d'ailleurs pour greffer une partie de la Provence qui dépendait de l'empereur d'Allemagne, mais que l'empereur d'Allemagne avait promis de donner plus ou moins à Raymond VI, qu'il ne l'avait pas fait, on ne savait pas trop. Et alors il dit ça, c'est moi le pape, je me le réserve, peut-être qu'un jour je te le donnerai. C'est pas sûr, mais ça fait rien. Et le petit Raimondette, il s'est mis ça derrière l'oreille et il s'est récupéré plus tard, quelques années plus tard, il a récupéré la terre de Provence. Donc voilà, ça, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est grâce à sa mère. Et ça, il a été très très marqué. Il faudrait faire toute l'histoire de Raymond VII uniquement en voyant l'influence de sa mère. Il a été très marqué par sa mère. Dès qu'il a eu à signer des chartes, etc., la charte de Corde, mais d'autres aussi, vous savez qu'à chaque charte, il y a un intitulé, une titulature, on appelle, elle dit, moi, Raymond, comte de Toulouse, marquis de Provence, duc de ceci, duc de cela, etc. Et lui, il met fils de la reine Jeanne. C'est son droit. Oui. Et ça, il l'a tenu tout le long. Et, je passe là-dessus, mais excusez-moi, je suis intarissable. Et à son testament, en 49, en tout terme, le premier mot de son testament, c'est de dire, je veux être enseveli à Fontevraud, près de ma mère, au pied de ma mère. Oui. Jusque-là. Et si on étudie en détail ce qu'il lègue dans son testament à sa fille, la petite Jeanne, qui est mariée avec Alphonse de Poitiers, rien ne sort du comté de Toulouse. C'est tous les biens de sa mère qu'il transmet à la petite fille. C'est vachement intéressant enfin intéressant, je ne sais pas si ça vous aide, mais moi je trouve que c'est sympathique, ça montre une vie à l'intérieur de cet homme, vous voyez. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Quoi. Pour moi, c'est vraiment... Chaque jour, je revis des heures passionnantes avec cet homme-là. Vous voyez, voilà. Donc, pour la réponse, elle est toute simple. Bien.
Je voudrais évoquer très rapidement le devenir de la maison Muratet, qui est tissé un lien entre le Moyen-Âge et la période actuelle.
Tout à fait.
Et donc, évoquer ce que devient aujourd'hui la maison Muratet, du nom de sa dernière occupante et dans laquelle il y a les peintures, les fameuses peintures dont vous parlez. La municipalité a racheté ce bâtiment il y a 4 ans, qui avait passé 15 à 20 ans d'abandon. Hein. Enfin, voilà.
Oui, passons.
Et c'était donc dans un état quand même pitoyable. Nous avons fait une première tranche de travaux pour que les experts puissent venir expertiser le bâtiment, puisque sans ces travaux, ils ne pouvaient même pas approcher des murs et tout, c'était trop dangereux. Ils ont donc fait l'état des lieux, ils ont donc fait des devis, et à partir de ces devis, nous sommes en train de faire une deuxième tranche de travaux pour sécuriser l'ensemble du bâtiment qui puisse traverser maintenant 10, 20, 30 ans sans qu'il ne lui arrive rien. Ces travaux ont commencé il y a un peu plus de 2 mois. Ils sont arrêtés pour l'été et vont se terminer à l'automne. Voilà. Et après, on pourra, ceux qui le souhaitent, on pourra le faire visiter.
J'ai entendu dire qu'il avait été voté par la municipalité de Saint-Antonin un projet de rénovation. C'est ce dont vous parlez,
ça, oui.
Ou bien c'est plus loin, c'est après
non,
ça.
Non, alors attendez. Alors, pourquoi on fait ça? C'est dans l'optique et dans le but de pouvoir évoquer dans ces lieux, dans ces bâtiments, le passé lointain, notamment celui de Raymond Jordan et celui de Raymond VII.
J'espère
d'en faire, un musée quelque part.
Oui, j'espère qu'on en aura une bonne place à Raymond VII.
Voilà. Alors, c'est très bien le... Le travail sur la maison Muratet est très très bien. Alors, moi j'ai fait une proposition à la mairie qui ne m'a pas répondu encore. J'ai fait une proposition à la mairie parce que je possède un livre sur les troubadours, le grand livre des troubadours, qui est traduit en 5 langues, c'est-à-dire qui est en occitan, qui est traduit en français, en anglais, en italien et en espagnol, en allemand. Et j'ai proposé que les pages de Raymond Jordan, les pages de ce manuscrit, il y a la musique et ses traductions, c'est un grand livre comme ça, qui a été d'ailleurs, qui vient de m'être relié par l'atelier reliure l'association des amis du Vieux Saint-Antonin, où Nicole est présente. J'ai proposé que ce manuscrit, puisque ce n'est pas une reproduction du manuscrit, ça a été réimprimé, mais ces pages sur Raymond Jordan avec une notice soient reproduites donc et soient affichées, soit dans des tableaux à la mairie, à la communauté de communes et si possible à l'office de tourisme pour remplacer la petite brochure de Raymond Jordan où il est présenté comme un clown, comme un jeune clown. Voilà. Et j'ai pas encore eu de réponse de la mairie, donc j'en profite d'avoir Denis Ferté à nos côtés pour qu'il puisse prendre la décision sur le champ. Pour qu'il puisse prendre sur le champ la décision de le mettre très vite avec un argumentaire au vote du conseil municipal.
Je pense qu'on va remercier tous Michel Bonnet pour sa causerie. On ne dira pas.